Petit ruisseau alimente les grandes causes, la finance solidaire et moi, c'est le thème de la table ronde du samedi 6 avril à 17h au Gazette Café. Dans ce studio de FM+, Fanny Dombrecoste qui animera cette table ronde du 6 avril. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Et Fanny, vous recevez Mathieu Roquefort, sociétaire actif de la Nef. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à vous.
Alors Fanny, comment vous est venue cette idée d'organiser cette table ronde sur les finances solidaires ?
Alors aujourd'hui, on observe une vraie colère qui s'exprime dans la rue contre les excès de la finance, contre la mondialisation, la financiarisation, avec les injustices qu'elle crée et qui explosent, l'injustice et les inégalités. Et finalement, comment le citoyen peut-il être acteur d'un changement qu'on appelle tous de nos voeux ? Il n'y a qu'à voir les grandes manifestations pour le climat qui se développent chaque mois un peu plus. Comment le citoyen peut-il être acteur du changement et de la transformation de notre modèle vers une société plus juste, plus responsable, plus évidemment raisonnable et plus sobre peut-être aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment de se poser la question comment nous, chacun d'entre nous, peut-il se réapproprier le pouvoir de son épargne ? Est-ce que on peut participer par notre épargne à la transformation de l'économie vers une économie plus solidaire et qui replace l'humain au cœur de son projet ? Alors Mathieu, je suis ravie de vous recevoir et que vous soyez présent à cette table ronde, parce que quand on va sur le site de la Nef, il est écrit que la Nef est une banque éthique, transparente, fraternelle et ouverte aux générations futures. Alors franchement, on n'a pas l'habitude d'entendre parler des banques sous cette terminologie-là. Alors moi, je suis ravie de lire ça sur votre site et ça me donne qu'une envie, c'est d'aller cliquer pour éventuellement ouvrir un livret. Alors dites-nous comment la Nef est-elle une banque éthique ? Pourquoi vous dites que la Nef est une banque transparente et en quoi elle est fraternelle ?
Tout un programme. Oui, c'est marrant, tout le monde rigole presque quand je leur dis que la Nef est une banque éthique. C'est un peu un oxymore. Mais on y travaille. Le but, c'est qu'elle le soit réellement. Alors, l'éthique. L'éthique, ça passe déjà par faisons ce qu'on dit. Donc déjà, la Nef traite ses salariés correctement. Donc, la Nef est la seule banque qui soit agréée ESUS, c'est-à-dire entreprise sociale d'utilité solidaire ou solidaire d'utilité sociale, je ne sais jamais entre les deux. C'est-à-dire notamment pour qu'il y ait un écart maximum de 1 à 5 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé. On est très loin des standards des banques. Même si la Nef est quand même une toute petite banque, c'est une PME. Ensuite, bien entendu, il y a l'utilisation qui est faite de l'argent. C'est le point principal. Alors, la Nef ne finance que des projets respectueux de l'être humain et de son environnement. C'est-à-dire qu'elle a trois domaines d'intervention qui sont l'environnemental, le social et le culturel. Pour qu'un projet soit financé, il faut qu'il ait une plus-value dans un de ces trois domaines et qu'il ne soit pas destructeur dans les deux autres, évidemment. Créer des emplois en polluant, on n'est pas d'accord. Alors, polluant, ça entend bien, hein. À partir du moment où on a une activité, on pollue. C'est inévitable. Un maraîcher qui transporte ses légumes dans un camion pollue. Mais bon, on ne peut pas être à zéro. Ensuite, transparente. Transparente, la Nef publie l'intégralité des projets qu'elle finance, tous les ans. Donc chaque année, on fait un fascicule dans lequel il y a la liste de tous les projets financés. L'intégralité, c'est-à-dire qu'on part du principe que si on en publie 99%, c'est qu'il y a un problème avec le pourcent qu'on veut cacher. Donc soit si on est transparent, c'est totalement ou pas du tout. C'est la seule banque à faire ça, en France en tout cas. Alors il faut savoir quand même que la Nef prête à peu près un tiers des sommes qu'on lui confie. D'une part parce qu'elle n'a pas le droit de tout prêter, elle est obligée de conserver des liquidités, qu'elle est obligée de placer dans d'autres banques. Donc ça, c'est un peu problématique, mais de toute façon, c'est une obligation. Donc on fait attention aux banques dans lesquelles on le place. Il y a dans le livret qui est publié avec la liste des projets, il y a un chapitre sur ce point-là. Et d'autre part, la Nef a du mal à tout prêter.
Pourquoi ?
Parce que la Nef prête plus cher que les autres banques.
Ah.
Ça, c'est quelque chose qu'on sait peu. La plupart des prêts, les prêts immobiliers en tout cas, mais beaucoup de prêts, même des prêts aux entreprises, dans la plupart des banques, le prêt est un produit d'appel. C'est-à-dire que les banques vous disent, vous êtes obligé d'avoir votre compte courant chez nous si on vous prête. Ce qui est totalement illégal, clairement illégal. Mais tout le monde le fait. Moi, quand j'ai emprunté ma maison, j'ai dit ça au banquier en question. Il m'a dit, ah oui, bien sûr, je peux vous faire une autre proposition si vous ne mettez pas votre compte courant chez nous, mais vous allez voir, ça sera beaucoup moins intéressant. Et donc, toutes les banques contournent cette loi. Tout le monde le sait. Personne n'est jamais embêté. Et les gens s'imaginent que parce qu'ils ont un prêt dans une banque, ils sont obligés d'y rester toute leur vie. Ça fait des clients captifs, on leur facture des agios, etc.
Alors qu'ils pourraient partir, une fois qu'ils ont eu leur prêt.
Alors qu'ils pourraient partir. Moi, j'ai domicilié mes revenus dans la banque qui m'a prêté pour ma maison. Et un mois plus tard, j'ai remis mes revenus là où j'étais avant. Mon compte courant est au crédit coopératif. Donc, j'ai remis au compte. Et ils n'ont rien dit parce qu'ils n'ont pas le droit.
C'est ça. Voilà.
Mais ça, très peu de gens le savent. Et puis, on s'imagine que c'est embêtant.
Voilà une belle information à donner sur FM+. Merci.
Donc, les banques ne gagnent pas d'argent sur le prêt. Elles s'arrangent pour ne pas en perdre. Mais elles gagnent de l'argent avec les autres services qu'elles font. Avec les agio, avec tous les frais qu'elles facturent.
Les cartes bancaires.
Et en spéculant.
Ah, oui.
Les Jérôme Kerviel, tant que ça marche, de temps en temps ça ne marche pas, on entend parler, mais la plupart du temps ça rapporte de l'argent. La NEF, évidemment, ne fait pas ça, ne fait pas de spéculation, ça va de soi. Donc la NEF n'a pas tous ces revenus-là. Résultat, elle est obligée, il faut que le prêt rapporte, paye les salaires, etc. Et donc forcément, on a beau faire tous les efforts qu'on veut, c'est toujours un peu plus cher à la NEF. C'est inévitable. C'est un peu comme les tomates bio, c'est plus cher que les tomates pas bio.
D'accord. Mais est-ce que la NEF est un établissement financier comme les autres? Est-ce qu'on peut y déposer notre épargne, ouvrir un compte, une assurance vie, obtenir un prêt pour acheter une voiture électrique? En dehors du coût, est-ce que c'est un établissement financier comme les autres?
Du point de vue des statuts, oui. Elle a les mêmes droits que les autres banques. Du point de vue des services, non. Parce que ce que je disais, la NEF est une PME, il y a moins de 100 salariés à la NEF, c'est tout petit par rapport aux autres banques, c'est microscopique. Donc on ne peut pas fournir tous les services que fournissent les autres banques, tout ça est en construction. Le but c'est de grandir pour les fournir. Par exemple, il n'y a pas d'assurance vie.
D'accord.
Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas en proposer, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc tout ça viendra. Le principe, et c'est notre message réellement, c'est si vous voulez que la NEF propose demain les services qui n'y sont pas aujourd'hui,
il faut aujourd'hui l'accompagner, la NEF, pour lui permettre de se développer.
Exactement.
Tout à fait.
Il ne faut pas attendre.
Il ne faut pas attendre. Alors, quelle est la... Évidemment, les Français sont très soucieux de leur épargne. Hein. Je crois que la France est championne du monde en chiffres sur l'épargne par citoyen. Et cette épargne, si les Français la constituent, c'est parce qu'il y a une forme d'inquiétude qui fait qu'on a, voilà, on fait tous l'écureuil et on garde des réserves. Mais il y a une vraie question autour de la confiance. Quelle confiance on peut donner à un établissement comme la NEF, qui est finalement assez peu connu du grand public? Est-ce que, pour parler de confiance, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des labels qui permettent de rassurer les auditeurs qui nous entendent et qui seraient éventuellement susceptibles d'aller sur votre site et d'ouvrir un livret en cliquant sur le bouton vert?
Le label, il y en a un seul et c'est le même pour toutes les banques, c'est l'agrément de la Banque de France. Pour exercer une activité bancaire en France, il faut être agréé par la Banque de France qui vérifie qu'on gère l'argent comme il faut et qu'il n'y a pas de risque. Et la banque, et la NEF, comme toutes les autres banques, a l'agrément de la Banque de France. Ceci étant, les Américains ont le même et on a bien vu que ça ne protégeait pas contre tout. Ceci étant, la NEF, ensuite, il y a l'activité de la banque. C'est-à-dire que ce qui a posé problème lors de la crise financière, c'était beaucoup de produits dérivés. C'est-à-dire que les banques placent leur argent, créent des produits qui contiennent plusieurs produits, qui eux-mêmes sont contenus dans d'autres produits. Enfin, au bout d'un moment, on achète des produits, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. La NEF n'a rien de tout ça. Elle place de l'argent dans d'autres banques parce qu'elle est obligée de garder des liquidités et l'argent qu'elle n'arrive pas à prêter. Et le reste, elle le prête en direct à des entreprises. C'est-à-dire que, voilà, il y a trois intervenants. Il y a l'épargnant, la NEF et l'emprunteur. Il n'y en a pas plus. Donc la traçabilité est complète. On sait où est l'argent. Alors, bien sûr, de temps en temps, il y a des emprunteurs qui n'arrivent pas à rembourser leurs prêts. Il y a des impayés, comme dans toutes les banques. Ils sont à peu près au niveau de 1%, comme dans la plupart des banques. Sachant que la NEF finance beaucoup de créations d'entreprises. Un tiers des prêts sont pour la création d'entreprises, ce qui est beaucoup, plus que les banques traditionnelles, et ce qui est considéré comme plus risqué. Et malgré ça, on n'a pas plus d'impayés. Donc la NEF a une bonne gestion du risque. Et ensuite, il y a de toute façon un fonds de garantie qui est européen, me semble-t-il, et qui garantit 100 000 euros par compte.
Donc, par citoyen.
Pour les particuliers, même si j'ai des comptes dans trois banques, j'ai trois fois 100 000 euros de garantie. C'est-à-dire que chaque compte est garanti à hauteur de 100 000 euros. Donc là, pour avoir plus que ça, c'est plus le commun des mortels. C'est-à-dire qu'au pire du pire, si la NEF faisait faillite, le fonds de garantie couvrirait à hauteur de 100 000 euros pour chaque compte, pour chaque citoyen. Donc il n'y a pas plus de risque qu'ailleurs.
Il n'y a pas plus de risque qu'ailleurs.
Nous voilà rassurés, Fanny.
Absolument. Je souhaite que... Alors quand on parle de placer son argent, les Français sont aussi très attentifs à la fiscalité que ça représente. Est-ce que quand on parle finance solidaire, il y a une fiscalité particulière ?
Alors, c'est intéressant. Il y a deux façons de soutenir la NEF et de placer son argent à la NEF. On peut ouvrir un livret et mettre son argent sur un livret. Il est disponible, on dépose, on retire quand on veut. Sur le livret, il n'y a aucune fiscalité particulière. Ce n'est pas un livret A, c'est un livret NEF. Ce qu'on appelle parfois livret B, c'est un livret sans fiscalité particulière. La rémunération est à 0,1%, donc il ne faut pas espérer devenir riche avec ça. Et donc là, on déclare les impôts comme avec le reste. Mais on peut aussi prendre des parts sociales. Alors, la NEF est une coopérative. Alors ça fait partie aussi de ce qui la rend éthique, c'est-à-dire qu'elle appartient à ses sociétaires. On peut être client sans être sociétaire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. La NEF a besoin de sociétaires pour grandir. Et quand on prend des parts sociales, le coût d'une part sociale est de 30 euros. On investit dans la NEF. Donc, si j'achète une part sociale à 30 euros, ces 30 euros sont toujours à moi, la part sociale m'appartient, mais là, j'ai plus l'argent. L'argent n'est plus disponible. C'est un petit peu comme la caution d'un appartement. C'est-à-dire que l'argent est à moi, mais je ne peux pas m'en servir. Si un jour j'en ai vraiment besoin, je peux demander le remboursement des parts sociales. À ce moment-là, il faut que j'attende l'Assemblée Générale suivante, qui statue, qui donne son accord, et après ça, je suis remboursé. Donc c'est de l'argent qui est moins disponible, mais là-dessus, il y a un crédit d'impôt de 18%. 18% des sommes qu'on prend en part sociale.
Ce qui est énorme,
J'ai dit crédit d'impôt, réduction d'impôt.
Réduction d'impôt.
Il faut être imposable,
réduction d'impôt,
autant pour moi.
Ah.
Oui, ce qui change pas mal, il faut être imposable pour que ce soit intéressant.
C'est ça. D'accord, oui, c'est pas pareil. D'accord. Et alors, dites, comment ça fonctionne très concrètement ? Il n'y a pas de guichet de la NEF ?
Il n'y a pas de guichet. La NEF a des agences dans 4 villes en France. Mm-hmm. Les plus proches de Montpellier sont Lyon et Toulouse. Concrètement, tout se passe par Internet.
D'accord. Tout se passe par Internet. Il y a des produits type carte bancaire, non, ce sont des virements. Enfin, ça fonctionne plutôt sous cette forme-là. Est-ce qu'il y a un compte courant à la NEF ?
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant. Mais c'est un des projets ?
C'est ça, c'est en projet.
C'est un des projets que vous avez.
D'accord. Pour 2019.
D'accord, du coup, vous pourrez après proposer des prêts. Faire comme les autres établissements bancaires.
certainement, on n'obligera pas les gens à avoir leur compte courant chez nous pour faire un prêt.
Alors, on voit beaucoup fleurir des projets qui sont financés par le crowdfunding, par du financement collaboratif. Est-ce que vous participez à ces aventures-là ? Est-ce que vous êtes acteur de ce type de plateforme ? Ou comment se passe le partenariat entre la NEF et d'autres formes de financement ?
Alors, justement, la NEF a un site de financement participatif qui s'appelle Zest. Donc, le principe, c'est « Faites un Zest ».
Très joli.
Donc c'est une plateforme de crowdfunding, de financement participatif, de dons avec ou sans contrepartie. Et donc il y a pas mal de projets dessus en permanence. Les projets, bien entendu, rentrent dans les critères éthiques de la NEF. Il faut que les projets soient respectueux de l'être humain et de son environnement. Il y a des projets de toute taille. Je reviens à l'instant de La Cagette, qui est le supermarché coopératif de Montpellier. La Cagette a lancé une opération de financement participatif sur Zest quand elle s'est installée dans ses locaux. Elle a eu besoin d'un
apport.
Elle a eu besoin d'un apport et donc ça s'est fait sur Zest. Et ça s'est très bien passé, l'objectif a été atteint.
Donc ça marche. Pour la radio FM+, quand on fera un appel de don, on fera appel aux Zest. Une pause musicale pour tous les deux. À tout de suite. sur FM Plus 91 FM à Montpellier avec Fanny Dombrecoste qui sera l'animatrice de la table ronde du 6 avril au Gazette Café en compagnie de Mathieu Roquefort, sociétaire actif de la NEF, la banque éthique et fraternelle et solidaire.
Alors Mathieu, donner du sens à notre épargne, finalement, comment est-ce qu'on peut vous aider pour que votre projet grandisse et pour que vous deveniez un acteur incontournable? Parce que vous nous faites rêver, une banque éthique, transparente et fraternelle, forcément on appelle tout ça de nos voeux.
Alors il y a plusieurs moyens, mais le principal, celui qui aidera le plus la NEF à se développer, c'est devenir coopérateur et prendre des parts sociales. Parce que ça va influer à deux niveaux. D'une part, plus il y aura de coopérateurs et plus la NEF sera crédible vis-à-vis des pouvoirs publics et des autres institutions financières. Et d'autre part, d'une façon plus concrète, on le sait assez peu, mais l'argent qu'une banque a le droit de prêter, il n'est pas calculé par rapport à l'argent qu'on lui confie. Il n'est pas calculé par rapport à son capital, à l'argent qui lui appartient. Et le capital d'une banque, ce sont les parts sociales que prennent les sociétaires. Donc aujourd'hui, la NEF a à peu près un an d'avance entre le montant de son capital et le montant qu'elle prête. C'est-à-dire que si aujourd'hui plus personne ne prend de capital, dans un an, on ne peut plus prêter parce qu'on aura tout épuisé. Mais il y a en permanence des gens qui reprennent les parts sociales et ça nous permet de prêter plus. Et il faut que ça continue. Et plus on grandit, plus on est connu, plus ça accélère et plus il faut que des gens continuent à prendre des parts sociales pour qu'on ait du capital et qu'on puisse prêter plus.
Alors, vous avez dit qu'une part sociale, c'est 30 euros. Est-ce que je peux prendre des parts sociales, les offrir, les donner à mes enfants pour préparer l'avenir de nos enfants, de la nouvelle génération qui va arriver? Est-ce que je peux faire ce geste en tant que parent, grand-parent et finalement prendre des parts sociales pour les générations futures?
Ah, c'est une bonne question. honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas vérifié au niveau des formulaires si on peut prendre des parts sociales pour quelqu'un, pour un mineur. Il faudra vérifier. On vérifiera ça pour la table ronde.
Très bien. Alors rendez-vous à la table ronde du 6 avril. On va aborder ces questions et on ira plus loin encore pour débattre de ces sujets qui sont passionnants.
Absolument. Merci à vous, Fanny Dombrecoste. Merci à vous, Mathieu Roquefort. Et on se retrouve le 6 avril. Au revoir.
Au revoir, merci.